amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors nous avons ici, dans ce studio de la rue d'Assali, deux familiers de l'émission Les Poètes, Elisabeth Aragon. Elisabeth, bonjour. Il y a peu de temps que tu étais déjà dans ces studios, hein, pour nous présenter un des livres de la collection Esparto de Hasard, d'édition Hasard Atelier, sur Gilbert Azam. Et nous avons aujourd'hui le poète-chanteur Bruno Ruiz. Bruno, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Radio Occitanie dans cette émission Les Poètes. Alors Bruno, nous allons parler évidemment de l'œuvre du poète Bruno Ruiz. Et avant, si tu le permets, nous allons donner la parole à Elisabeth Aragon, puisque Elisabeth Aragon, non seulement elle est poète, bien sûr, mais elle dirige une collection de publications de poésie aux éditions Hasard Atelier, qui s'appelle Esparto. Et je crois que dans cette collection, peut-être Bruno Ruiz va être publié. Elisabeth, quelles sont les dernières publications de Hasard Atelier, collection Esparto?
Alors, la toute prochaine, qui est en souscription,
donc, de l'abbé Jean-Louis Meyer,
Jean-Claude.
Qui s'appelle, le recueil s'appelle Le Cycle de l'encre. Voilà, donc vous pouvez regarder sur Internet, vous tapez collection Esparto et vous aurez le lien. Et puis après, prochainement, mais je n'ai pas encore les dates, ça va dépendre de Bruno, un recueil, un grand honneur d'avoir Bruno dans cette collection, c'est L'Odeur du Monde. Voilà, une tarde de...
Alors bon, tu peux nous dire deux mots peut-être sur sur la souscription en cours.
Alors la souscription en cours, ce n'est pas Bruno puisqu'on est dans les, comment dire ça, dans les ébauches qui sont presque finalisées en quelque sorte. Mais la souscription en cours, donc c'est Le Cycle de l'encre de Jean-Marc Barrier, qui est poète, peintre, et voilà, une très belle écriture. Un recueil, une écriture pour moi très très moderne aussi, enfin, je laisserai découvrir, mais voilà, c'est...
C'est un poète qui vit où?
Qui vit dans l'Hérault, et qui fait des émissions de radio, des ateliers d'écriture, qui a publié déjà, voilà, édition Phonème, d'autres émissions d'édition, moi j'ai pas en tête.
Oui,
et voilà, c'est un beau projet.
Alors,
le livre devrait être sous presse, donc il va sortir incessamment sous peu.
Alors, il y a
j'espère avant la fin du mois.
Un avis de cette parution, avec le bon de souscription également, sur le site de l'émission Les Poètes. Hein. Les Poètes, tout attaché, sans accent, point site. Vous trouverez là, à la rubrique parution, donc, le moyen de vous procurer ce livre. Voilà. Alors, Bruno, on va parler rapidement, donc, de ta vie. Tu es né dans les années 50, hein, tu es un des enfants des années 50, toi. Ouais. 1953, exactement.
Exactement.
À Arcachon, hein, je parle de mémoire. Donc, très beau pays, quand même, Arcachon.
Oui, mais...
Très, très beau pays qui marque. Et qui t'a marqué, comme l'a bien souligné, si je me souviens bien, ta fille, lorsqu'elle est venue présenter un peu le panorama de ton œuvre, Le Poète Invisible, entre guillemets, à l'Académie des Jeux Floraux, dans cette salle Clément Cisor, où elle a insisté sur ce décor qu'a été pour toi Arcachon, et qui est effectivement un décor marquant. Être né là, c'est évidemment quelque chose qui imprègne. Hein. Tu as fait quelques études de lettres à Bordeaux.
Oui.
Voilà. Et en 1978, bon, tu as déjà, je pense que quand on regarde Bruno Ruiz, on sait que c'est quelqu'un qui a eu la vocation de ce qu'il est assez vite et qui n'en a pas démordu. C'est-à-dire, bon, moi je suis poète, je suis chanteur, poète-chanteur, les deux étant intrinsèquement liés chez toi. et le côté poète évidemment étant à mon sens le côté quand même fondamental. Et donc en 1978, tu décides d'être un poète et de naître quasiment comme poète. Et tu es découvert en 1984, hein, je parle toujours de mémoire, au Printemps de Bourges. Si j'ai surtout là que bon, au Printemps de Bourges, dont on sait le succès, surtout ces années-là quand même, hein. C'était vraiment de grandes années du Printemps de Bourges, et où il y avait de grands noms. Et là, un qui est remarqué, c'est Bruno Ruiz. Et puis, bon, ta carrière entre guillemets commence là, et tu te retrouves à Toulouse dans les années 80. 81, 82.
Je suis arrivé à Toulouse en 77.
77.
Ouais.
Hein? Bon. Le temps passe parce que je sais que on a fait une émission. La première émission que j'ai fait avec toi, c'était à Canal Sud et ce devait être en 81.
Oui.
Je pense. La nuit de la poésie, je crois que c'était.
Oui.
Voilà, où tu étais venu superbement, là, tu avais improvisé, ou tu avais récité tes textes, je me souviens, dans la nuit, en pleine nuit, là, dans ce studio de Canal Sud. Je me souviens très bien de ça. Voilà. Et donc, à partir de là, eh bien, tu vas avoir toute une carrière de ce que tu appelles le poète, comment tu dis exactement,
poète invisible,
oui, non, ça, oui, mais
poète
avant,
de variété,
voilà, poète de variété,
oui, et poète de musical, et,
oui, donc attention, il faut pas se mettre prendre, ce n'est pas le musical, comment dirais-je, où le texte quand même l'emporte toujours sur le côté. Et malgré tout.
Paillette, tu veux dire.
Hein,
sur le côté paillette.
Oui, absolument. Oui. Oui.
Mais j'aime bien les paillettes.
Oui. Bon, et puis, donc, tu as une vingtaine d'enregistrements à peu près. Hein, tu dois avoir de...
J'en ai 9, 10 maintenant.
10.
Oui.
Semble que c'était plus.
Non.
10 CD, donc,
c'est ça ? Alors, 9 CD, et non, 2 vinyles, 7 CD et 1 DVD.
D'accord.
Qui vient de sortir, d'ailleurs, qui est sorti il y a quelques mois.
Chez quel éditeur ?
Toujours le même, Itac.
D'accord.
Voilà,
d'accord.
C'est un DVD, c'est un DVD qui s'appelle Autour du poète invisible, où il y a la conférence de Colline Ruiz d'Arras, qui est ma fille, d'accord, qui avait fait une conférence aux Jeux Floraux, et qui est une étude thématique du poète invisible. Et il y a aussi un vidéo poème, et il y a le récital qui s'appelle Poète de variété, de toutes les chansons que je fais, que j'ai fait et que j'ai créé au Théâtre du Pavé, et que j'ai repris d'ailleurs au mois de septembre dans les pauses musicales de la place du Sénéchal. Voilà.
Voilà. Alors, en dehors donc de... Alors il faudra que l'on fasse ici, on va diffuser bien entendu quand même ce dernier CD qu'on ne connaît pas. Donc je ferai en sorte de pouvoir le diffuser sur les ondes de Radio Occitanie.
Mais c'est un DVD, alors bon, c'est un DVD, alors c'est difficile
de... Ah, c'est un DVD.
Oui, c'est un DVD,
je n'ai pas compris,
oui.
Excusez-moi.
Oui.
D'accord, et on peut pas les...
Non. Je crois pas, non, ah. C'est l'objectif, c'était de laisser une trace...
D'accord, oui,
une trace,
d'accord,
visuelle des récitals que je faisais.
D'accord,
donc,
oui, voilà. D'accord.
Mais c'est pas grave, on peut...
D'accord. On peut le commander.
On peut le commander, oui.
Magnifique.
Oui, tu donneras les coordonnées,
oui.
Et nous le mettrons, et évidemment, de façon pérenne sur le site lespoètes.site, de manière à ce que les auditeurs puissent, en allant sur ce site, avoir aussi tous les renseignements pour se procurer ce DVD. Alors, une écriture abondante qui est comme un fleuve qui coule depuis l'adolescence, hein. Et donc de ce fleuve, tu as tiré, je ne me souviens plus combien de numéros, 15 numéros.
Pour l'instant, 15, il y en a deux qui sont en préparation.
Voilà. Voilà. Donc, ça veut dire, je lisais il y a peu de temps Thierry Metz qui expliquait que pour lui, la poésie, c'était quelque chose qui ne pouvait jamais s'achever. Et je me dis, tiens, tout à l'heure, je vais voir Bruno Ruiz. Et lui aussi, je crois qu'il est dans ce moule-là, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais.
Oui, je l'ai connu, voilà. Thierry.
Oui, 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 oui. Oui, on en parlera, j'en parlerai peut-être un peu tout à l'heure, puisque Gallimard s'est enfin décidé, 20 ans après, au mieux tard que jamais, à publier Lettre à la bien-aimée, les autopoèmes donc, de Thierry Metz, oui, avec une magnifique préface d'Isabelle Lévesque, qu'on a bien connue, avec laquelle nous avons travaillé ici. Et même une postface d'Éric Vuillard, hein, excusez du peu. Bon, très beau livre. Alors revenons à nos moutons. Bruno, donc une œuvre tentaculaire, commencée dès l'adolescence.
En 1966, oui.
Oui, bon, c'est la fin de l'adolescence, quoi.
Oui, c'est ça.
Oui, tu es né en 53, donc, oui. Et qui continue aujourd'hui, je dirais presque au jour le jour.
Oui.
Presque au jour le jour. Et donc nous sommes heureux ici de t'avoir et nous allons te demander de nous faire profiter, si tu veux, de cette manne qui coule avec tant d'abondance, mais qui, bien entendu, il n'y a pas dans cette abondance, dans cette permanence, un peu de la création, il y a toujours au centre, il y a toujours quand même l'essentiel, qui me semble, de la poésie authentique, du moins c'est l'idée que je m'en fais, c'est-à-dire qu'il y a une forme de gravité quand même. Et on ressent cette gravité, en particulier bien entendu dans tes derniers textes, cette gravité qui, par la forme du langage, parce que tout ton travail est un travail de reconstruction de la réalité par le langage. Et d'ailleurs, je parle là aussi de mémoire, je pense que tu dis à un moment donné, la réalité est une chose, l'écriture est autre chose. Et le poète, justement, il vit ce drame. Parce qu'il ne peut pas être comme il vit dans cette autre chose qui est la poésie, il ne peut pas vivre véritablement la réalité. J'ai lu ça récemment, surtout dans, je n'ai pas pu noter la phrase exacte, mais ça m'a semblé être tout à fait ta démarche, si tu veux. Dans la vie, il y a le Bruno Ruiz qui est dans la réalité très, très trivial, très à l'aise. Avec cette réalité, mais dans l'écriture il y a autre chose, il y a une transposition de cette réalité par la langue, et ce souci constant de la langue, du mot, de ce que vraiment la langue va pouvoir transformer cette réalité, va pouvoir justement encerner peut-être ce que on n'avait pas vu, et que les mots, par cette espèce de miracle qui est la langue, quand on lit Bruno Ruiz, comment il arrive par la langue à nous donner une réalité qui est sa réalité, mais qui est bien entendu une réalité dépassée, qui est une réalité universelle et qui est une réalité magnifique, parce que elle atteint, c'est une forme d'art, une forme d'art. Et tu arrives à écrire la réalité comme de l'art. Voilà. Et on voit dans ce que tu dis, on ne s'éloigne jamais, jamais de l'art. Voilà. Je crois que le mieux, Bruno, c'est que tu illustres peut-être cela. Bien entendu, tu vas dire si ce commentaire te paraît complètement aberrant ou pas.
Et, non, mais voilà. je réponds à tes questions, mais comme il n'y en a pas, alors, je réponds pas.
Oui. Est-ce que. Alors, j'avais une phrase de Jean Cocteau, c'est pour te dire, je suis allé chercher loin. Le drame des poètes est qu'ils doivent vivre très au-dessus des moyens de leur époque.
Oui, bon, c'est bien. C'est très bien. J'aime beaucoup Jean Cocteau.
Est-ce que c'est toujours vrai, ça?
Je sais pas. J'ai du mal à parler de la poésie en général, parce que la poésie, c'est quelque chose de tellement intime et tellement lié à la personne qui l'écrit et à celle qui la lit, que toutes les propos sur la poésie, c'est souvent c'est un peu à côté. Je préfère les gens qui disent voilà comment j'écris, voilà ce que je suis. Mais quand on commence à dire la poésie c'est ceci ou la poésie c'est cela, il y a quelque chose qui m'ennuie un petit peu par rapport à ça. Je crois que pour moi la poésie c'est un rapport à la langue, un rapport intime à sa langue maternelle. C'est une connexion que l'on a avec son poème intérieur, dans cette langue confuse, obscure, qui nous habite dès les premiers mois de la vie. Et c'est ça l'objet, cette matière de la langue qui fait que certains auront envie d'explorer l'obscurité de cette langue et d'autres n'en auront pas besoin, et ce sera très bien aussi. Il n'y a rien d'exceptionnel à être un poète, je crois pas. Enfin, moi je me sens vraiment complètement à l'intérieur de la société des hommes, comme quelqu'un qui écrit et comme quelqu'un qui, voilà, il y en a qui aiment la pêche à la ligne, puis il y en a d'autres qui aiment écrire, voilà, bon, c'est pas plus compliqué que ça. On fait un grand cas de la poésie, je trouve. Je suis pas un militant de la poésie. Je trouve que la poésie se milite elle-même. Il suffit de la lire, d'y accéder, puis s'y intéresser. Et d'y trouver un espace unique, un rapport unique au monde par la poésie elle-même, je pense.
Nous sommes d'accord. Elisabeth.
Oui, je suis d'accord, mais j'avais envie de dire que par rapport à la première phrase, qu'en fait les moyens sont, je ne sais pas comment dire, en fait, il faut arriver à tous les moyens pour être dans la poésie, mais des fois c'est plus complexe.
C'était tu parles de la création de la poésie, créer la poésie.
Oui, créer la poésie.
Ou se faire reconnaître.
Déjà se faire connaître, ça c'est évident.
Oui. Moi, ça n'a aucun intérêt pour moi. Ouais. Ça, se faire connaître, c'est.
Non, pas, se faire connaître dans le sens être lu. Parce que c'est pas.
Ça non plus, j'écris des livres, c'est un peu ennuyeux de dire ça à une éditrice chez Kervat. On va éditer probablement. Mais j'écris beaucoup de livres qui sont pour qu'ils soient écrits, non pas forcément pour qu'ils soient lus. J'ai besoin de les écrire, c'est un besoin, une manie, une sorte de pathologie, une forme de pathologie. Oui. Je les écris parce que j'ai besoin, ça fait partie de mon ADN, je dirais, ou peut-être pas mon ADN, parce que j'ai commencé à écrire après être né, mais bon, j'écris surtout. C'est pour ça que je n'ai pas tellement de soucis avec la diffusion. C'est pour ça que je n'ai jamais édité chez un éditeur. Tu seras à peu près sur les 10 000 à peu près les 10 000 pages que j'ai écrites. Il doit y avoir 500 pages qui sont éditées, en dehors du Poète Invisible, évidemment, qui est une édition particulière, puisque ce sont ces 15 volumes de 400 pages, mais qui sont très, très, comment dire, très, enfin, c'est une édition qui n'intéresse que les gens qui s'intéressent à ce que je fais.
Mais alors, après, personne qui s'intéresse à toi, mais à ce que tu fais, sinon.
Oui, mais je fais une différence. C'est pour ça que.
C'est pas un hasard si je vais t'éditer, si je t'écoute.
Oui, mais enfin, on parle de poésie là. Oui, c'est-à-dire, je fais la différence quand je dis poète de variété ou poète de musical ou poète de la chanson. Il y a toujours cette dualité. qualité là. C'est-à-dire le poète, c'est celui qui écrit des poèmes et qui a un rapport à sa langue, à son poème intérieur. Et en plus, et après, il y a celui qui socialise cela. Et pour moi, c'est le musical, c'est la chanson que j'adore, hein, qui fait partie des choses les plus importantes de ma vie. La chanson et puis le spectacle, le récital. Bon, mais tout ça, ce sont des représentations de la poésie. Quand je, là, on parlait de poésie. Le livre en tant que livre poème, c'est une représentation du poème pour moi. C'est pas la poésie elle-même. La poésie, c'est quand je suis tout seul, que je me réveille à 4h du matin pour venir écrire un texte probablement qui ne verra jamais le jour, parce que je le jetterai avant qu'il soit fini, ou il finira au fond d'un tiroir. Bon. Ça, c'est la poésie, c'est-à-dire ce rapport qu'on entretient avec sa propre langue. Et ça, ça n'a pas besoin d'être édité. Ça fait partie. Moi, je connais des gens qui écrivent, qui n'éditent jamais, qui n'ont jamais rien édité, et ils se portent très bien. Après la socialisation, l'édition, la publication des poèmes, c'est une des formes de représentation de la poésie, de quelque chose qui existe, qui préexiste à cela. Tu comprends, c'est ça. Moi, je suis ravi de sortir un livre avec dont on pourra lire peut-être des extraits. Je pourrais peut-être lire des extraits sur l'odeur du monde. Ce sont des textes qui sont, c'est en fait un seul texte, mais qui est composé de fragments et que j'ai écrit comme ça, comme on écrit sur un carnet, quoi. C'est-à-dire, ce sont des choses qui n'étaient pas destinées forcément à l'édition. Ce n'est pas une commande. Non, ce n'est pas une commande. Tu vois, bon, c'est ce que je veux dire par là. Je veux dire, il y a des poètes, ils s'en vont en résidence dans des abbayes ou je ne sais où, et ils font des livres qui sont des commandes de cela et qui existent au travers de ces commandes. Pourquoi pas, hein, je ne suis pas contre ça, mais c'est pas du tout ma démarche. Moi, j'écris parce que je ne peux pas faire autrement. J'aimerais que ça s'arrête même, je te dirais franchement. J'aimerais que ça s'arrête, que ce besoin d'écrire comme ça cesse. Parce que c'est extrêmement prenant et j'ai l'impression que je vois moins les gens et où je suis voyeur des gens plus que... Je suis dans une contemplation du monde, voilà, et j'aimerais agir un peu plus sur le monde. Et aujourd'hui, je pense que le monde a besoin d'action, parce que ce qui se passe dans le monde, on en a pas parlé, mais c'est absolument ahurissant ce qui se passe. Et c'est vrai que être un contemplatif dans ce monde, c'est une façon qui moi me gêne un petit peu, alors que je n'ai fait que ça pendant toute ma vie, quoi. Je ne fais pas de la poésie d'action, voilà.
Oui, mais moi je dirais que c'est contemplatif et interrogatif. Parce que quand
voilà,
on te lit
on
aussi,
besoin,
c'est la personne qui te lit va être amenée aussi à une réflexion, à une interrogation. À des fois être un peu déboussolé, s'interroger justement sur la poésie,
je pense
la fonction,
qu'on a
la place.
On a besoin de contemplation. Donc, mais en ce moment, on a besoin de contemplation parce que ça manque. Mais on a besoin aussi d'action. Je dis ça au jour de grève. Hein.
Oui. Je crois que malheureusement, l'action, c'est pas ce qui manque. Par contre, prendre le recul. Avoir des gens qui prennent du recul sur cette action et qui, peut-être, les poètes, c'est aussi leur vocation, peuvent, du fait de cette nécessité qu'est l'écriture chez toi, comme chez tous les grands poètes authentiques, il ne peut pas y avoir, à mon sens, de poètes authentiques qui ne soient des poètes mus par la nécessité d'écrire.
Oui, mais...
La nécessité, voilà. C'est cette nécessité qui fait les grandes œuvres et cette nécessité d'écrire. Oui, mais pas que.
Non, bien sûr. Grande œuvre, ça me. Non. Je ne sais pas ce que c'est qu'une grande œuvre.
C'est une œuvre qui va rester d'une façon universelle.
Oui, mais ça, alors là, il y aurait beaucoup à dire. Je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de soulever.
Oui, par exemple, bon, je vais parler bientôt de Bruno Durocher, qui est, à mon avis, un des plus grands poètes du XXe siècle. Et qui n'a pas cette reconnaissance, comme tu dis, tu vois, ça veut dire que, on peut pas, Moi, je sais que c'est une grande œuvre. Et je vais dire que c'est une grande œuvre. Et je peux démontrer que c'est une grande œuvre. Pour autant, si tu veux, dans la réalité pratique de la vie et la vie commerciale même, puisque la poésie est un produit comme un autre aussi, cette œuvre-là n'apparaîtra pas, si tu veux, au sommet de la hiérarchie des valeurs reconnues.
Oui, voilà. C'est vrai, voilà. Mais c'est ouais. Sûrement vrai pour d'ailleurs, moi je le connais pas, alors bon. mais par voilà. Contre, je crois que le problème de la reconnaissance, il est pas
parce que lui aussi, je crois que sa poésie le poète,
ouais. Je crois qu'il n'est pas le seul à avoir des problèmes de reconnaissance. Tous les individus,
oui,
dans
les
leur métier, tout dans les artistes, mais pas que les artistes.
Bien entendu.
Tous les gens ont des souffrent plus ou moins de ne pas être reconnus comme ils voudraient l'être. Etc., et oui. Qui ne le sont pas. Oui. Et il y a une souffrance, une réelle souffrance. Elle n'est pas inhérente aux poètes et aux artistes. C'est vrai que les artistes sont en plein milieu de leur ego, souvent. Et c'est vrai, mais pas que. Il y a aussi des gens qui. Moi, je vois des tas de gens qui sont malheureux parce qu'ils sont méprisés dans leur travail, ils ne sont pas reconnus pour ce qu'ils font, et ils ne sont pas reconnus à leur juste valeur, ils sont abandonnés, oubliés, etc. Bon, c'est vrai chez les enseignants, c'est vrai chez les ouvriers qui font souvent un travail extrêmement précis et qui font un travail le mieux possible et qui sont méprisés. Je crois que c'est pas l'affaire que des artistes, la reconnaissance.
Tu sais ce que disait le grand poète du XXe siècle, Pierre Reverdy. Je travaille avec le fol espoir qu'aucune récompense ne me sera jamais donnée.
Ouais.
Voilà. Belle phrase, hein.
Oui.
Magnifique.
Oui, tout à fait.
Bruno, on va quand même écouter, on va commencer par écouter, si tu veux bien, un extrait d'un de tes
oui.
CD.
Oui.
Hein
Le phare de mes rêves. C'est...
Le phare de mes rêves.
Un jour j'accosterai le phare de mes rêves, vainqueur de mes dérives, j'atteindrai le silence. Revenu à jamais d'orages impossibles, sera en moi la mer, poème d'avenir. Et ma somme des ronces, lassée de mes noyades, mes voiles affalées échoueront au soleil. Les portes une à une se referment sur nous, balayant les années d'avoir été si belles. Et c'est le temps profond qui vient, qui nous délivre, ce temps, celui-là même, qui tant nous faisait peur. Je n'aurai jamais plus besoin de tous vos livres, quand le large infini sera venu me prendre. Il n'était ici-bas pas l'ombre d'un miracle, sinon cette lueur étrange des étoiles. Des navires amis, rien qu'un vieux chant d'exil sur des lèvres qui s'ouvrent, des mots dans une voix qui rejoignait leurs îles. Ce peu de temps qui reste à ce corps qui s'enlise, je le veux souverain sous la lune complice. Abeille, comme un coussin d'été, la flèche d'un hiver. Je le veux sans compter les ruines de nos routes et savourer à deux l'instant qui s'éternise.
Merci Bruno. Alors c'était extrait de dernier CD, je crois.
L'avant-dernier, c'était maintenant avec merci. Alain Bréhéré au piano. Voilà. Et c'était une chanson qui s'appelle Le phare de mes rêves.
Et Alain Bréhéré qui est ton vieux compagnon. Hein.
Oui, absolument. Ton
compagne depuis de.
Compagnon le vieux, début. On va dire.
Oui. Alors nous allons écouter Bruno, donc dans tes textes.
Oui.
Alors, c'est extrait de alors, Le Poète Invisible
ou... Non, c'est non, très non. récent. C'est d'accord. un texte que je propose à Elisabeth qui a eu la, le souhait et l'envie
donc c'est
de l'éditer bientôt. On ne sait pas trop quand, mais ça naîtra peut-être dans le courant de l'année 2026. Voilà, ça s'appelle L'odeur du monde. Je vais en lire un extrait. Je vais essayer de pas être trop long parce que, bon, voilà. L'odeur du monde, c'est celle qui entre dans ton nez pour visiter les poumons de la ville. Sur le trottoir, tu t'arrêtes entre des milliers d'images et tu respires un désordre de récits venus de très loin, d'un poème intérieur que tu dénoues inlassablement. Autour de toi danse un millefeuille de sucre léger, des fluves capiteuses. Tu es ici et ailleurs dans la fatigue de tes histoires et de l'histoire des hommes. Tu marches vers ce rire cristallin que tu sembles reconnaître, ce parfum qui s'éloigne et disparaît sur les allées grouillantes du marché. L'odeur du monde, c'est aussi ce vertige arrêté au milieu des badauds, la mémoire d'un caniveau, l'usure d'une statue, la chevelure d'un platane. Tu traverses maintenant le pont neuf dans une brassée de vent. Un vélo s'éloigne lentement dans les longues jambes d'une femme. Tu entres dans la brique et la pierre, tu n'as ni âge ni lieu. Tu es ce souvenir qui t'inonde et se présente sous ton bras. Tu rêves sans dormir. Contemple ce qui n'existe plus, et tes géographies s'en vont dans quelques muscles, quelques corps, quelques lèvres qui t'effleurent pour de nouvelles résurrections. Il y avait donc quelque chose après le déluge, une sorte d'apesanteur sur les seuils. Tu apparais dans les cieux dégagés, le savon du visible, la nuque relevée sur les vieux immeubles roses. Tu t'invites à la noce des bruits, au cas où des feuilles mortes, une survenue de lumière sur les quais. Tu es dans chaque remuement du presque immobile, ce temps venin que tu libères comme l'eau d'une vasque, la confidence des mots dans la joie ardente de très vieux silences. Tu te dénombres dans l'infinie demeure que tu portes en toi, dans la réplique retrouvée de tes jeunes jours, la volupté éloignée de tes plages, de tes lits d'escalade. Tu n'en finis pas de rejoindre l'inaccessible, accéder à ton enfance, le ciment de tes digues, l'angle doux du désir.
Très beau, Bruno.
Oui, très beau. Oui. Il me tarde d'être à l'œuvre bientôt de la mise en page.
Et... Alors, justement, je me disais, bon, ces textes, c'est magnifique, mais ils n'adviennent véritablement ces textes en définitive que lorsqu'ils ont un lecteur aussi.
Oui, comme tous les textes.
Voilà, comme tous les textes. Et là, j'ai eu une phrase, si vous voulez, d'un des livres que vous devez connaître, Le Livre de Montbord. De Pierre Reverdy, hein, qui dit « L'œuvre est un rendez-vous. Ce n'est pas son âme que l'auteur vous doit, mais sa présence. Oui. Si vous y ajoutez la vôtre et du vôtre, l'œuvre vivra. Car il n'y a pas seulement la sincérité de l'auteur que l'on exige, il y a aussi celle du lecteur à laquelle on ne pense pas. »
Oui, je suis tout à fait d'accord avec voilà. ça.
Ouais. Alors, c'est pour ça qu'en écoutant, et lorsque hier j'ai lu abondamment donc les textes de Bruno, qui m'ont, je le dis carrément, assez bouleversé, j'ai dit, mais ces textes ne seront accomplis que lorsqu'il y a vraiment le lecteur. C'est le lecteur qui les accomplit, les textes.
Oui, voilà. Je suis, oui, bon. Tout à fait.
Et je me suis dit, en même temps, ces textes que j'ignorais, je ne savais pas que je pouvais y accéder comme ça, par ce biais merveilleux de la technologie qui m'échappe totalement.
Mais ça s'appelle un blog, tu sais, bon, ça existe depuis 30 ans.
Hein. Mais moi, en les lisant, je leur ai donné, si tu veux, pour moi, je leur ai donné cette vie. Je les ai fait vivre, ces textes, oui, parce que j'étais le lecteur. Et donc, c'était des textes qui, tout à coup, prenaient une autre dimension. Hein, des textes qui ont touché leur cible, quoi. Voilà. C'est pour ça que, c'est très bien, Elisabeth, il faut aussi, parce qu'il faut avoir le texte aussi. C'est bien d'écouter, c'est très bien. Oui. Mais le texte, pouvoir revenir, d'abord écouter à son rythme. Moi, j'ai un rythme lent dans la lecture, ce qui est gênant quand on est obligé de lire beaucoup. Mais pouvoir revenir sur le texte, pouvoir le voir. C'est vrai que il y a une oralité, bien entendu, du texte quand on vient de le lire.
Oui.
On sent que ça passe très bien à l'oral, ça passe très très bien, vraiment. Mais la lecture, la réflexion que va donner la lecture, l'exigence qu'est le fait de lire, parce qu'il y a une exigence, quand on écoute, c'est quelque chose quand même qui reste passif. Tandis qu'en lire, il y a quelque chose d'actif, il y a un côté beaucoup plus actif.
Oui.
Et c'est pour ça qu'en définitive, il faut les deux. Et que ces textes-là, il faut aussi pouvoir les avoir sous le nez et les lire.
Oui. Alors les textes dont tu parles, que j'ai édité presque au jour le jour, sont des textes qui ont été écrits suite au décès de mon épouse Cathy, et je vais en faire une lecture. Le 21 janvier, c'est les 2 ans jour pour jour. Oui. Après la mort de Cathy, je vais en lire des extraits à la Galerie 21, place du Salin, chez Sylvie et voilà. D'accord. Voilà, je vais faire ça le 21 janvier, c'est-à-dire le jour anniversaire de sa mort. Je lirai 3/4 d'heure de ses textes.
D'accord.
Voilà, ça sera un moment un peu dur pour moi, mais ça sera une façon aussi d'exorciser un petit peu ces textes écrits dans la solitude, voilà, ce que je disais tout à l'heure, de les faire passer dans la représentation publique. Oui. Voilà.
Est-ce que tu as des extraits de ces textes-là, monsieur?
Oui, j'en ai bien sûr, oui.
Tu peux nous en lire peut-être un ou deux?
Moi, je voulais juste te dire
oui,
que,
pardon,
qu'en fait, quand on te lit, que ce soit le blog ou Facebook, en fait, on s'approprie, c'est comme un journal de bord intime avec nous-mêmes aussi.
Oui.
On peut être dans chaque jour. Alors moi, je ne vais pas tout le temps lire ou faire des commentaires. D'ailleurs, j'en fais très, 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 très peu. Mais en fait, c'est comme une nécessité aussi de t'accompagner et de s'accompagner et de s'approprier. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'il y a presque une nourriture nécessaire en l'écriture, c'est...
Oui, en plus, il y a quelque chose qui nous rassemble, c'est qu'on a tous perdu quelqu'un que l'on aimait.
Le
donc
deuil,
on peut
le deuil
retrouver,
l'amour,
quoi.
La perte, la continuité. Oui, ça nous...
Et c'est peut-être même l'essentiel.
C'est un effet, vraiment,
oui.
Pardon.
Oui, et je dis que ce côté-là, bon, qui est la gravité absolue, quand même, là. On est dans la gravité absolue. C'est peut-être l'essentiel, si tu veux, de ce qu'on peut dire. Comment on est confronté à ça et comment on réagit à ça, et on est obligé de repenser à tout l'être. Qu'est-ce que l'être? Qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce que sont les autres? Qu'est-ce qu'on est pour les autres? Et où va-t-on? D'ailleurs, tu en parles aussi très bien dans ces textes-là. Hein.
C'est-à-dire que
tu dis, on ne sait pas où on va, mais on y va tous au même endroit.
Oui. C'est-à-dire que, en fait, il faut trouver la forme, la bonne forme. Et moi, j'ai mis des années à trouver la forme qui correspondait le mieux, qui permettait le mieux de faire passer le maximum de poésie. C'était pas forcément le poème en vers, mais c'était la prose poétique. C'est par la prose poétique, parce que je peux inclure à l'intérieur des alexandrins, des octosyllabes, des rimes intérieures, des assonances, des rythmes différents. Et pour moi, la la poésie, le poème en vers est une des choses, un des outils poétiques les plus performants. Mais bon, on peut s'attarder à des textes qui sont différents. J'écris aussi des textes rimés, mais la prose poétique me paraît plus opérante pour moi.
On va t'écouter.
Donc oui, alors je vais lire quelques extraits du début de ce texte qui est en fait, j'ai composé ce texte par petits morceaux comme ça et je n'ai créé un seul qui fera l'objet d'une publication, mais je ne sais pas quand. Cathy est morte le 21 janvier 2024 d'un accident vasculaire cérébral foudroyant, suite à une angiopathie amyloïde diagnostiquée 3 jours auparavant. L'angiopathie amyloïde est une maladie qui touche les petites artères cérébrales. À l'heure actuelle, il n'existe aucun traitement. Le risque d'AVC est maximal. Repérable par IRM, rien ou à peu près ne peut le prévenir, ne peut l'endiguer. Dans le cas de Cathy, la formation d'un énorme hématome a été très rapide. Après quelques vomissements dans l'ambulance des pompiers, il a précipité dans un coma, puis dans une paralysie générale. Elle a été maintenue aux soins palliatifs aux urgences du CHU Pierre-Paul Riquet de Toulouse jusqu'à 4h25, heure de son décès. Il faut le savoir, la vie ne s'arrête pas tout de suite. Sur les cadrans, les lignes de couleur continuent d'osciller. Cela n'est ni immédiat ni brutal. Les lignes ne deviennent plates qu'au bout d'une petite minute. Le corps non plus ne devient pas froid tout de suite. Ce qui reste de vivant est dans cette main tiède qui refroidit lentement, qui devient bleu. Le visage est désormais immobile. Lui aussi, peu à peu, devient froid. Non, cela ne s'arrête pas d'un seul coup. Il a fallu un peu de temps pour se rendre à l'évidence. Quelques secondes pour que l'infirmier de garde nous fasse un petit signe de la tête. Un petit signe qui disait oui, mais qui aurait pu dire non. Cela voulait dire la même chose. Avec Colline, notre fille, nous avons regardé l'horloge au-dessus des machines. Il était 4h25, c'était idiot de regarder l'horloge à ce moment, mais elle était morte à cette heure-là, 4h25. Cela devait être important, cela était inacceptable. Cathy était morte à 4h25 et nous étions seuls au milieu de la nuit à le savoir. Les funérailles se sont déroulées dans une grande harmonie. Elle fut incinérée selon ses souhaits. Ce moment si pénible, nous l'avons prévenu ensemble. Nous ne voulions que de la douceur autour de nous. La douleur ne doit être que l'affaire du secret de chaque solitude. Pour ce qui nous concerne, l'exhibition du chagrin doit être mise à distance. Mais il n'y a pas de règle. Chacun fait comme il peut. Nous voulions rester dignes et sereins comme de bons élèves stoïciens. Nous avons rempli le contrat. Je n'oublierai jamais aucun des visages présents cet après-midi-là. Ils auront tous dessiné à leur façon ce pont qui me sépare de la première absence. Elle qui avait horreur des enterrements, qui n'assistait à presque aucun, pour une fois elle aurait aimé le sien, j'en suis sûr. C'est drôle, la nuit suivante, j'ai eu une discussion avec elle justement à propos de son enterrement. Sur la façon dont il s'était déroulé, je lui demandais ce qu'elle en avait pensé. Je me suis réveillé avec le visage salé, les paupières collées. J'avais dû pleurer pendant mon sommeil. J'entendais ses pas tout proches dans le couloir. Ils habitent désormais un silence froid, un silence qui s'efface peu à peu avec les parfums de sa chair, son ombre à la fenêtre, sa voix définitive. Je ne peux dépasser mon esprit de son dernier souffle entre ses dents. Sur son lit de mort aux urgences, j'ai voulu revoir une dernière fois ses yeux. J'ai soulevé ses paupières, ses pupilles étaient dilatées, ses yeux n'étaient plus verts, ils étaient noirs. Elle aura eu l'élégance de mourir les yeux fermés. Je n'aurais pas supporté d'avoir à les fermer pour elle. C'était une façon de bien terminer le chemin, de me dire qu'il faut accepter ce qui est fini, que ce n'est pas la douleur ni la peur qui gouvernent, qu'on est fort de tous nos murs tombés. Je peux continuer si... Je ne sais pas. Je vis désormais dans un précipice. À chaque fois, je la retrouve dans cette incise du temps. Je viens à sa rencontre. J'entends des bruits de marteau. Il ne me délivre de rien. Elle ne sera jamais tout à fait mon accomplie. Sur l'étagère de la salle de bain, je brouille ses boucles, ses perles, ses colliers pour retrouver la chaleur de ses mains. Je suis en éclat. Elle sera toujours la récompense de ma vie, ma récompense infinie. Je me remplis, je me vide. C'est ma vie maintenant, ma vie qui respire un air qui fut le sien, un air qui traverse ses lèvres sur le lavabo. Il y a encore le souvenir de son visage dans le miroir, quelques traces de ses doigts peut-être. Il me reste ses yeux de vivante, juste ce qu'il faut pour que ma vie soit tolérable. Cette chose qui s'arrêta sans raison et sans bruit cette nuit-là, ce ne fut pas sa vie terrestre, sa vie qui abandonnait la face, ses flux tendus, tous ses efforts de mémoire. La tragédie finissait de s'écrire. Elle se jouait en un seul acte, dans un souffle unique d'à-coups, d'apnée, de résurgence. Un seul acte très bref. Sa présence a désormais le visage de l'absence, belle à jamais silencieuse. Son mystère demeure intact et le lien total. Elle demeure ma perçante conscience nageant mon infrabasse d'une mer intérieure. Elle n'aura offert son sang que pour que je lui survive, sa mort pendant la nuit, le jour, un souvenir de lumière. Dans cette maison qu'elle quitta cette nuit-là précipitamment dans l'ambulance, elle m'aura laissé aussi quelques indices, quelques effondrements d'une mémoire encore joyeuse. Tout ce qui est à dire n'est jamais encore dit. Nous n'appartenons pas seulement à l'enfouissement, mais aussi à ces signes légers et aériens, ces images jonglées au-dessus de l'abîme. Son corps meurtri par les ans et la maladie reviennent en moi à chaque seconde, comme le rêve de notre jeunesse. Elle ne se sera décomposée pour une nouvelle naissance. Désormais, elle m'habite en partage, avec la douce voix endormie dans la nuit. Non, je ne veux plus entendre ces notes rouges du requiem qui s'éloignent avec elle. Elles sont sèches comme le sang mortel de son cerveau, sèches à jamais comme le temps qui m'éloigne d'elle, comme ce temps que je déteste tellement.
Merci Bruno. Si tu veux, nous allons terminer par passer un de tes morceaux de CD.
Oui.
Hein, on va pas mettre l'indicatif.
Oui.
On va finir sur ça.
D'accord.
On va finir sur ça.
Donc, écoutez, Triomphe du poème. C'est une chanson qui ferme le disque que j'ai réalisé avec Michel Goubin, qui est une ode au temps qui nous reste. Voilà,
très bien.
Triomphe du poème.
Très bien, le triomphe du poème, Bruno Ruiz.
Triomphe du poème.
Donc vous pouvez retrouver cette émission sur lespoètes.site. Merci Bruno, merci Elisabeth. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de Radio Occitane et nous vous disons à la semaine prochaine à 17h.
Le matin m'a lavé. Le crépuscule était donc une aurore. Je sais mon attente inondée des archipels retrouvés sur des cartes sonores. Des herbes cueillies aux neiges fondues et toutes les blancheurs. Chante les péninsules, faites nos étraves, étreint nos rivages avec les bras de chaque naufrage. Pour l'osier ouvert de nos nuits à venir, la vie compagne de nos lèvres,
chantons nos musiques d'arbres à nos forêts tranquilles. Elles se propagent comme un feu de joie. Et du vent des vergues au rire des nuages, des gorges dénouées aux mains ouvertes de nos cimes. Commentons-nous la sève du poème, ouvrons les portes de la forme. Que s'ouvrent nos asiles contre la raison de nos arts. Nos guerriers sont morts le jour où nos chants les transpercèrent. Et de toutes nos caresses naquit la danse dans l'élégance des nuées. Car il n'y a pas de loi, il n'y a que l'expérience de ceux qui ont souffert. Notre combat sans prière, une liqueur descendue de nos plus hauts volcans. Ce qui s'incarne est notre seul trésor, la vie est notre école comme la mer est notre exil. Nous sommes libres de nos marches. Nous avons le pouvoir de rêver parmi les morts. Aux mers et cervelées dont les courants du hasard, l'homme s'ouvre sur nos dérives. On ne sombre jamais, même blessé on nage, car rien n'est perdu tant que brille le large. Voici les salves des derniers monstres fatigués, des églises écroulées par le vent de nos deuils. La main tendue n'est qu'un geste archaïque, elle n'a besoin d'aucun dieu, d'aucune religion. Éternité humaine dans l'orgue des mémoires. Je suis le jardinier plongeant dans les fosses communes. Un désordre de mots pour un livre à venir. Témoin d'une algue profane, sans hiérarchie, dans l'hiver aboli, il nous reste le temps, la force du matin, ce temps qui gardera de nous la somme des trajectoires, puisque le temps ne s'arrêtera jamais. Seront là pour occuper tous les possibles.
Émission. Merci à Monsieur l'abbé Meyer, merci à Monsieur Pierre Viguier, merci à Madame Elisabeth Aragon d'être venue parler de ce remarquable recueil, La Marche à l'étoile de Gilbert Azam, collection Esparto aux éditions Hasard Atelier. Ce recueil vous coûtera la somme de 15 euros à lire sans attendre. Ainsi s'achève l'émission Les Poètes.